Comme tous ceux qui environnaient Odette, Ted était en quelque sorte que le mode selon lequel il pouvait la voir, causer avec elle. Il aimait la société des Verdurin. Là, comme au fond de tous les divertissements, repas, musique, jeux, souper costumé, parties de campagne, parties de théâtre, même les rares grandes soirées données pour les ennuyeux, il y avait la présence d'Odette, la vue d'Odette, la conversation avec Odette, dont les Verdurin faisaient à Swann en l'invitant le don inestimable. Il se plaisait mieux que partout ailleurs dans le petit noyau et cherchait à lui attribuer des mérites réels, car il s'imaginait ainsi que par goût il le fréquenterait toute sa vie. Or, n'osant pas dire, par peur de ne pas le croire, qu'il aimerait toujours Odette, du moins en cherchant à supposer qu'il fréquenterait toujours les Verdurin, proposition qui a priori soulevait moins d'objections de principe de la part de son intelligence, il se voyait dans l'avenir continuant à rencontrer chaque soir Odette. Cela ne revenait peut-être pas tout à fait au même que l'aimer toujours, mais pour le moment, pendant qu'il l'aimait, croire qu'il ne cesserait pas un jour de la voir, c'est tout ce qu'il demandait. « Quel charmant milieu !» se disait-il. « Comme c'est au fond la vraie vie qu'on mène ici, comme on y est plus intelligent, plus artiste que dans le monde !» Comme Madame Verdurin, malgré de petites exagérations un peu risibles, a un amour sincère de la peinture, de la musique. Quelle passion pour les œuvres! Quel désir de faire plaisir aux artistes! Elle se fait une idée inexacte des gens du monde, mais avec cela que le monde n'en a pas une plus fausse encore des milieux artistes. Peut-être n'ai-je pas de grands besoins intellectuels à assouvir dans la conversation, mais je me plais parfaitement bien avec Cottard, quoiqu'il fasse des calembours ineptes, et quant au peintre, si sa prétention est déplaisante quand il cherche à étonner, en revanche, c'est une des plus belles intelligences que j'ai connues. Et puis surtout, là, on se sent libre, on fait ce qu'on veut sans contrainte, sans cérémonie. Quelle dépense de bonne humeur il se fait par jour dans ce salon-là. Décidément, sauf quelques rares exceptions, je n'irai plus jamais que dans ce milieu. C'est là que j'aurai de plus en plus mes habitudes et ma vie. Et comme les qualités qu'il croyait intrinsèques aux Verdurin n'étaient que le reflet sur eux de plaisir qu'avait goûté chez eux son amour pour Odette, ces qualités devenaient plus sérieuses, plus profondes, plus vitales, quand ces plaisirs l'étaient aussi. Comme Madame Verdurin donnait parfois à Swann ce qui seul pouvait constituer pour lui le bonheur. Comme tel soir où il se sentait anxieux parce qu'Odette avait causé avec un invité plus qu'avec un autre, et où, irrité contre elle, il ne voulait pas prendre l'initiative de lui demander si elle reviendrait avec lui, Madame Verdurin lui apportait la paix et la joie en disant spontanément « Odette, vous allez ramener Monsieur Swann, n'est-ce pas ?» Comme cet été qui venait, où il s'était d'abord demandé avec inquiétude si Odette ne s'absenterait pas sans lui, s'il pourrait continuer à la voir tous les jours. Madame Verdurin allait les inviter à le passer tous deux chez elle à la campagne. Swann, laissant à son insu la reconnaissance et l'intérêt s'infiltrer dans son intelligence et influer sur ses idées, allait jusqu'à proclamer que Madame Verdurin était une grande âme. De quelques gens esquis ou éminents que tel de ses anciens camarades de l'école du Louvre lui parla, « Je préfère 100 fois les Verdurin, » lui répondait-il. Et avec une solennité qui était nouvelle chez lui, ce sont des êtres magnanimes, et la magnanimité est au fond la seule chose qui importe et qui distingue ici-bas. Vois-tu, il n'y a que 2 classes d'êtres, les magnanimes et les autres. Et je suis arrivé à un âge où il faut prendre parti. Décider une fois pour toutes qui on veut aimer et qui on veut dédaigner, se tenir à ce qu'on aime, et pour réparer le temps qu'on a gâché avec les autres, ne plus les quitter jusqu'à sa mort. Eh bien, ajoutait-il avec cette légère émotion qu'on éprouve, quand même sans bien s'en rendre compte, on dit une chose non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'on a plaisir à la dire et qu'on l'écoute dans sa propre voix, comme si elle venait d'ailleurs que de nous-mêmes. Le sort en est jeté. J'ai choisi d'aimer les seuls cœurs magnanimes et de ne plus vivre que dans la magnanimité. Tu me demandes si Madame Verdurin est véritablement intelligente. Je t'assure qu'elle m'a donné les preuves d'une noblesse de cœur, d'une hauteur d'âme, ou, que veux-tu, on n'atteint pas sans une hauteur égale de pensée. Certes, elle a la profonde intelligence des arts, mais ce n'est peut-être pas là qu'elle est le plus admirable. Et telle petite action ingénieusement, esquisement bonne qu'elle a accomplie pour moi, telle géniale attention, tel geste familièrement sublime, révèle une compréhension plus profonde de l'existence que tous les traités de philosophie. Il aurait pu pourtant se dire qu'il y avait des anciens amis de ses parents aussi simples que les Verdurin, des camarades de sa jeunesse aussi épris d'art, qu'il connaissait d'autres êtres d'un grand cœur, et que pourtant, depuis qu'il avait opté pour la simplicité, les arts et la magnanimité, il ne les voyait plus jamais. Mais cela ne connaissait pas Odette, et s'il l'avait connue, ne se serait pas soucié de la rapprocher de lui. Ainsi, il n'y avait sans doute pas dans tout le milieu Verdurin un seul fidèle qui les aimât ou crût les aimer autant que Swann. Et pourtant, quand M. Verdurin avait dit que Swann ne lui revenait pas, non seulement il avait exprimé sa propre pensée, mais il avait deviné celle de sa femme. Sans doute la discrétion même avec laquelle il usait de l'hospitalité des Verdurin, s'abstenant souvent de venir dîner pour une raison qu'il ne soupçonnait pas, et à la place de laquelle il voyait le désir de ne pas manquer une invitation chez des ennuyeux, sans doute aussi, et malgré toutes les précautions qu'il avait prises pour la leur cacher la découverte progressive qu'il faisait de sa brillante situation mondaine, tout cela contribuait à leur irritation contre lui, mais la raison profonde en était autre. C'est qu'ils avaient très vite senti en lui un espace réservé, impénétrable, où il continuait à professer silencieusement pour lui-même que la princesse de Sagan n'était pas grotesque et que les plaisanteries de Cottard n'étaient pas drôles. Enfin, et bien que jamais il ne se départît de son amabilité et ne se révolta contre leurs dogmes, une impossibilité de les lui imposer, de l'y convertir entièrement, comme il n'en avait jamais rencontré une pareille chez personne. Il lui aurait pardonné de fréquenter des ennuyeux, auxquels d'ailleurs dans le fond de son cœur il préférait mille fois les Verdurin et tout le petit noyau, s'il avait consenti, pour le bon exemple, à les renier en présence des fidèles. Mais c'est une abjuration qu'ils comprirent qu'on ne pourrait pas lui arracher. Quelle différence avec un nouveau qu'Odette leur avait demandé d'inviter, quoiqu'elle ne l'eût rencontré que peu de fois, et sur lequel il fondait beaucoup d'espoir, le comte de Forcheville. Il se trouva qu'il était justement le beau-frère de sa niette, ce qui remplit d'étonnement les fidèles. Le vieil archiviste avait des manières si humbles qu'il l'avait toujours cru d'un rang social inférieur au leur, et ne s'attendait pas à apprendre qu'il appartenait à un monde riche et relativement aristocratique. Sans doute Forcheville était grossièrement snob, alors que Swann ne l'était pas. Sans doute il était bien loin de placer comme le milieu des Verdurin au-dessus de tous les autres. Mais il n'avait pas cette délicatesse de nature qui empêchait Swann de s'associer aux critiques trop manifestement fausses que dirigeait Madame Verdurin contre des gens qu'il connaissait. Quant aux tirades prétentieuses et vulgaires que le peintre lançait à certains jours, aux plaisanteries de commis-voyageurs que risquait Cottard, et auxquelles Swann, qui les aimait l'un et l'autre, trouvait facilement des excuses, mais n'avait pas le courage et l'hypocrisie d'applaudir, Forcheville était au contraire d'un niveau intellectuel qui lui permettait d'être abasourdi, émerveillé par les unes, sans d'ailleurs les comprendre, et de se délecter aux autres. Et justement, le premier dîner chez les Verdurin auquel assista Forcheville mit en lumière toutes ces différences, fit ressortir ses qualités, et précipita la disgrâce de Swann. Il y avait à ce dîner, en dehors des habitués, un professeur de la Sorbonne, Brichot, qui avait rencontré monsieur et madame Verdurin aux eaux, et si ses fonctions d'universitaire et ses travaux d'érudition n'avaient pas rendu très rares ces moments de liberté, serait volontiers venu souvent chez eux. Car il avait cette curiosité, cette superstition de la vie qui, unie à un certain scepticisme relatif à l'objet de leurs études, donne dans n'importe quelle profession à certains hommes intelligents, médecins qui ne croient pas à la médecine, professeurs de lycée qui ne croient pas au thème latin, la réputation d'esprit large, brillant et même supérieur. Il affectait chez madame Verdurin de chercher ses comparaisons dans ce qu'il y avait de plus actuel quand il parlait de philosophie et d'histoire. D'abord parce qu'il croyait qu'elles ne sont qu'une préparation à la vie et qu'il s'imaginait trouver en action dans le petit clan ce qu'il n'avait connu jusqu'ici que dans les livres. Puis peut-être aussi parce que s'étant vu inculquer autrefois et ayant gardé à son insu le respect de certains sujets, il croyait dépouiller l'universitaire en prenant avec eux des hardiesses qui, au contraire, ne lui paraissaient telles que parce qu'il l'était resté. Dès le commencement du repas, comme monsieur de Forcheville, placé à la droite de madame Verdurin, qui avait fait pour le nouveau de grands frais de toilette, lui disait « C'est original, cette robe blanche !» Le docteur, qui n'avait cessé de l'observer, tant il était curieux de savoir comment était fait ce qu'il appelait un « deux », et qui cherchait une occasion d'attirer son attention et d'entrer plus en contact avec lui, saisit au vol le mot « blanche », et sans lever le nez de son assiette, dit « Blanche ? Blanche de Castille ?» Puis, sans bouger la tête, lança furtivement de droite et de gauche des regards incertains et souriants. Tandis que Swann, par l'effort douloureux et vain qu'il fit pour sourire, témoigna qu'il jugeait ce calembour stupide, Forcheville avait montré à la fois qu'il en goûtait la finesse et qu'il savait vivre, en contenant dans de justes limites une gaieté dont la franchise avait charmé madame Verdurin. « Qu'est-ce que vous dites d'un savant comme cela ? » avait-elle demandé à Forcheville. « Il n'y a pas moyen de causer sérieusement 2 minutes avec lui. »« Est-ce que vous leur en dites comme cela, à votre hôpital ? » avait-elle ajouté en se tournant vers le docteur. « Ça ne doit pas être ennuyeux tous les jours, alors. » « Je vois qu'il va falloir que je demande à m'y faire admettre. » « Je crois avoir entendu que le docteur parlait de cette vieille chipie de Blanche de Castille, si j'ose m'exprimer ainsi. « N'est-il pas vrai, madame ?» demanda Brichot à madame Verdurin, qui, pâmant, les yeux fermés, précipita sa figure dans ses mains d'où s'échappèrent des cris étouffés. « Mon Dieu, madame, je ne voudrais pas alarmer les âmes respectueuses s'il y en a autour de cette table, soubrosa. Je reconnais d'ailleurs que notre ineffable république athénienne, ô combien, pourrait honorer en cette capétienne obscurantiste le premier des préfets de police à poigne. Si fait, mon cher hôte, si fait, reprit-il de sa voix bien timbrée qui détachait chaque syllabe, en réponse à une objection de M. Verdurin. La chronique de Saint-Denis, dont nous ne pouvons contester la sûreté d'information, ne laisse aucun doute à cet égard. Nul ne pourrait être mieux choisi comme patronne par un prolétariat laïcisateur que cette mère d'un saint, à qui elle en fit d'ailleurs voir de saumâtre, comme dit Sugère et d'autres saints Bernard, car avec elle chacun en prenait pour son grade. « Quel est ce monsieur ?» demanda Forcheville à madame Verdurin. « Il a l'air d'être de première force. Comment, vous ne connaissez pas le fameux Brichot ? Il est célèbre dans toute l'Europe. »« Ah, c'est Brichot ! » s'écria Forcheville qui n'avait pas bien entendu. « Vous m'en direz tant, » ajouta-t-il, tout en attachant sur l'homme célèbre des yeux écarquillés. « C'est toujours intéressant de dîner avec un homme en vue. Mais dites-moi, vous nous invitez là avec des convives de choix. on ne s'ennuie pas chez vous. « Oh, vous savez, ce qu'il y a surtout, dit modestement Madame Verdurin, c'est qu'ils se sentent en confiance. Ils parlent de ce qu'ils veulent, et la conversation rejaillit en fusée. Ainsi Brichot ce soir, ce n'est rien. Je l'ai vu, vous savez, chez moi, éblouissant à se mettre à genoux devant. Eh bien, chez les autres, ce n'est plus le même homme. Il n'a plus d'esprit, il faut lui arracher les mots. Il est même ennuyeux. » « C'est curieux, » dit Forcheville étonné. Un genre d'esprit comme celui de Brichot aurait été tenu pour stupidité pure dans la coterie où Swann avait passé sa jeunesse, bien qu'il soit compatible avec une intelligence réelle. Et celle du professeur, vigoureuse et bien nourrie, aurait probablement pu être enviée par bien des gens du monde que Swann trouvait spirituels. Mais ceux-ci avaient fini par lui inculquer si bien leur goût et leur répugnance, au moins en tout ce qui touche à la vie mondaine, et même en celle de ses parties annexes, qui devraient plutôt relever du domaine de l'intelligence, la conversation, que Swann ne put trouver les plaisanteries de Brichot que pédantesques, vulgaires et grasses à écœurer. Puis il était choqué, dans l'habitude qu'il avait des bonnes manières, par le ton rude et militaire qu'affectait, en s'adressant à chacun, l'universitaire cocardier. Enfin, peut-être avait-il surtout perdu ce soir-là de son indulgence, en voyant l'amabilité que Madame Verdurin déployait pour ce Forcheville, qu'Odette avait eu la singulière idée d'amener. Un peu gênée vis-à-vis de Swann, elle lui avait demandé en arrivant « Comment trouvez-vous mon invité ?» Et lui, s'apercevant pour la première fois que Forcheville, qu'il connaissait depuis longtemps, pouvait plaire à une femme et était assez bel homme, avait répondu « Immonde ». Certes, il n'avait pas l'idée d'être jaloux d'Odette, mais il ne se sentait pas aussi heureux que d'habitude, et quand Brichot, ayant commencé à raconter l'histoire de la mère de Blanche de Castille, qui avait été avec Henri Plantagenet des années avant de l'épouser, voulut s'en faire demander la suite par Swann en lui disant « N'est-ce pas, monsieur Swann ?» Sur le ton martial qu'on prend pour se mettre à la portée d'un paysan ou pour donner du cœur à un troupier, Swann coupa l'effet de Brichot à la grande fureur de la maîtresse de la maison, en répondant qu'on voulut bien l'excuser de s'intéresser si peu à Blanche de Castille, mais qu'il avait quelque chose à demander au peintre. Celui-ci, en effet, était allé dans l'après-midi visiter l'exposition d'un artiste, ami de Madame Verdurin, qui était mort récemment, et Swann aurait voulu savoir par lui, car il appréciait son goût, si vraiment il y avait dans ses dernières œuvres plus que la virtuosité qui stupéfiait déjà dans les précédentes. À ce point de vue, c'était extraordinaire, mais cela ne me semblait pas d'un art, comme on dit, très élevé, dit Swann en souriant. Élevé à la hauteur d'une institution, interrompit Cottard en levant les bras avec une gravité simulée. Toute la table éclata de rire. Quand je vous disais qu'on ne peut pas garder son sérieux avec lui, dit Madame Verdurin à Forcheville, au moment où on s'y attend le moins, il vous sort une calembredaine. Mais elle remarqua que seul Swann ne s'était pas déridé. Du reste, il n'était pas très content que Cottard fît rire de lui devant Forcheville. Mais le peintre, au lieu de répondre d'une façon intéressante à Swann, ce qu'il eût probablement fait s'il eût été seul avec lui, préféra se faire admirer des convives en plaçant un morceau sur l'habileté du maître disparu. « Je me suis approché, dit-il, pour voir comment c'était fait. J'ai mis le nez dessus. Ah bien, wesh ! On ne pourrait pas dire si c'est fait avec de la colle, avec du rubis, avec du savon, avec du bronze, avec du soleil, avec du caca. Et un fond douze ! S'écria trop tard le docteur dont personne ne comprit l'interruption. « Ça a l'air fait avec rien !» reprit le peintre. « Pas plus moyen de découvrir le truc que dans la ronde ou les régentes, et c'est encore plus fort comme pâte que Rembrandt et que Hals. Tout y est, mais non, je vous jure !» Et comme les chanteurs, parvenus à la note la plus haute qu'ils puissent donner, continuent en voix de tête, piano, il se contenta de murmurer et en riant, comme si en effet cette peinture eût été dérisoire à force de beauté. Ça sent bon, ça vous prend à la tête, ça vous coupe la respiration, ça vous fait des chatouilles. Et pas mèche de savoir avec quoi c'est fait. C'en est sorcier, c'est de la rouerie, c'est du miracle. Éclatant tout à fait de rire, c'en est malhonnête. Et s'arrêtant, redressant gravement la tête, prenant une note de basse profonde qu'il tâcha de rendre harmonieuse, il ajouta « Et c'est si loyal !» Sauf au moment où il avait dit plus fort que la ronde, blasphème qui avait provoqué une protestation de Madame Verdurin, qui tenait la ronde pour le plus grand chef-d'œuvre de l'univers, avec la neuvième et la Samothrace, et a fait avec du caca, qui avait fait jeter à Forcheville un coup d'œil circulaire sur la table pour voir si le mot passait, et avait ensuite amené sur sa bouche un sourire prude et conciliant, tous les convives, excepté Swann, avaient attaché sur le peintre des regards fascinés par l'admiration. « Ce qu'il m'amuse, quand il s'emballe comme ça !» s'écria quand il eut terminé Madame Verdurin, ravie que la table fût justement si intéressante le jour où M. Forcheville venait pour la première fois. « Et toi, qu'est-ce que tu as à rester comme cela ?» Bouche bée comme une grande bête, dit-elle à son mari. Tu sais pourtant qu'il parle bien, on dirait que c'est la première fois qu'il vous entend. Si vous l'aviez vu pendant que vous parliez, il vous buvait. Et demain il nous récitera tout ce que vous avez dit sans manger un mot. Mais non, ce n'est pas de la blague, dit le peintre enchanté de son succès. Vous avez l'air de croire que je fais le boniment, que c'est du chiquet. Je vous y mènerai voir. « Vous direz si j'ai exagéré, je vous fiche mon billet que vous revenez plus emballé que moi. »« Mais nous ne croyons pas que vous exagérez, nous voulons seulement que vous mangiez, et que mon mari mange aussi. »« Redonnez de la sole normande à monsieur, vous voyez bien que la sienne est froide. »« Nous ne sommes pas si pressés, vous servez comme s'il y avait le feu. »« Attendez donc un peu pour donner la salade. » Madame Cottard, qui était modeste et parlait peu, savait pourtant ne pas manquer d'assurance quand une heureuse inspiration lui avait fait trouver un mot juste. Elle sentait qu'il aurait du succès, cela la mettait en confiance et ce qu'elle en faisait était moins pour briller que pour être utile à la carrière de son mari. Aussi ne laissa-t-elle pas échapper le mot de salade que venait de prononcer Madame Verdurin. « Ce n'est pas de la salade japonaise, » dit-elle à mi-voix en se tournant vers Odette. Et ravie et confuse de l'à-propos et de la hardiesse qu'il y avait à faire ainsi une allusion discrète mais claire à la nouvelle et retentissante pièce de Dumas, elle éclata d'un rire charmant d'ingénu, peu bruyant mais si irrésistible qu'elle resta quelques instants sans pouvoir le maîtriser. « Qui est cette dame? Elle a de l'esprit, » dit Forcheville. « Non, mais nous vous en ferons si vous venez tous dîner vendredi. »« Je vais vous paraître bien provincial, monsieur, » dit Madame Cottard à Swann, « mais je n'ai pas encore vu cette fameuse Francillon dont tout le monde parle. Le docteur y est allé. Je me rappelle même qu'il m'a dit avoir eu le très grand plaisir de passer la soirée avec vous. » Et j'avoue que je n'ai pas trouvé raisonnable qu'il loua des places pour y retourner avec moi. Évidemment, au théâtre français, on ne regrette jamais sa soirée, c'est toujours si bien joué. Mais comme nous avons des amis très aimables, Madame Cottard prononçait rarement un nom propre et se contentait de dire « des amis à nous, une de mes amies, par distinction ». Sur un ton factice et avec l'air d'importance d'une personne qui ne nomme que qui elle le veut, qui ont souvent des loges et ont la bonne idée de nous emmener à toutes les nouveautés qui en valent la peine. Je suis toujours sûr de voir Francillon, un peu plus tôt ou un peu plus tard, et de pouvoir me former une opinion. Je dois pourtant confesser que je me trouve assez sotte, car dans tous les salons où je vais en visite, on ne parle naturellement que de cette malheureuse salade japonaise. On commence même à en être un peu fatigué, ajouta-t-elle, en voyant que Swann n'avait pas l'air aussi intéressé qu'elle aurait cru par une si brûlante actualité. Il faut avouer pourtant que cela donne quelquefois prétexte à des idées assez amusantes. Ainsi, j'ai une de mes amies qui est très originale, quoique très jolie femme, très entourée, très lancée, et qui prétend qu'elle a fait faire chez elle cette salade japonaise, mais en faisant mettre tout ce qu'Alexandre Dumas fils dit dans la pièce. Elle avait invité quelques amis à venir en manger, malheureusement je n'étais pas des élus, mais elle nous l'a raconté tantôt, à son jour. Il paraît que c'était détestable. Elle nous a fait rire aux larmes. Mais vous savez, tout est dans la manière de raconter, dit-elle en voyant que Swann gardait un air grave. Et supposant que c'était peut-être parce qu'il n'aimait pas Francillon. Du reste, je crois que j'aurais une déception. Je ne crois pas que cela vaille Serge Panine, l'idole de Madame de Crécy. Voilà au moins des sujets qui ont du fond, qui font réfléchir. Mais donner une recette de salade sur la scène du Théâtre Français, tandis que Serge Panine, du reste comme tout ce qui vient de la plume de Georges Genet, c'est toujours si bien écrit, je ne sais pas si vous connaissez le maître de forge, que je préférerais encore à Serge Panine. Pardonnez-moi, lui dit Swann d'un air ironique, mais j'avoue que mon manque d'admiration est à peu près égal pour ces deux chefs-d'œuvre. Vraiment, qu'est-ce que vous leur reprochez? Est-ce un parti pris? Trouvez-vous peut-être que c'est un peu triste? D'ailleurs, comme je dis toujours, il ne faut jamais discuter sur les romans, ni sur les pièces de théâtre. Chacun a sa manière de voir. Et vous pouvez trouver détestable ce que j'aime le mieux. Elle fut interrompue par Forcheville qui interpellait Swann. En effet, tandis que Madame Cottard parlait de Francillon, Forcheville avait exprimé à Madame Verdurin son admiration pour ce qu'il avait appelé le petit speech du peintre. Monsieur a une facilité de parole, une mémoire, avait-il dit à Madame Verdurin quand le peintre eut terminé, comme j'en ai rarement rencontré. Bigre, je voudrais bien en avoir autant. Il ferait un excellent prédicateur. On peut dire qu'avec Monsieur Bréchot, vous avez là deux numéros qui se valent. Je ne sais même pas si, comme Platine, celui-ci ne damerait pas encore le pion au professeur. Ça vient plus naturellement, c'est moins recherché. Quoi qu'il ait dit chemin faisant quelques mots un peu réalistes, mais c'est le goût du jour, je n'ai pas souvent vu tenir le crachoir avec une pareille dextérité, comme nous disions au régiment. Ou pourtant j'avais un camarade que justement monsieur me rappelait un peu. À propos de n'importe quoi, je ne sais que vous dire, sur ce verre, par exemple, il pouvait dégoiser pendant des heures. Non, pas à propos de ce verre, ce que je dis est stupide, mais à propos de la bataille de Waterloo, de tout ce que vous voudrez. Et il nous envoyait, chemin faisant, des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Du reste, Swann était dans le même régiment, il a dû le connaître. « Vous voyez souvent Monsieur Swann ?» demanda Madame Verdurin. « Mais non, répondit Monsieur de Forcheville. Et comme, pour se rapprocher plus aisément d'Odette, il désirait être agréable à Swann, voulant saisir cette occasion pour le flatter de parler de ses belles relations, mais d'en parler en homme du monde, sur un ton de critique cordiale, et de n'avoir pas l'air de l'en féliciter comme d'un succès inespéré. N'est-ce pas, Swann? Je ne vous vois jamais. D'ailleurs, comment faire pour le voir? Cet animal-là est tout le temps fourré chez les La Trémoille, chez les Lômes, chez tout ça. Imputation d'autant plus fausse, d'ailleurs, que depuis un an, Swann n'allait plus guère que chez les Verdurin. Mais le seul nom de personne qu'il ne connaissait pas était accueilli chez eux par un silence réprobateur. Monsieur Verdurin, craignant la pénible impression que ces noms d'ennuyeux, surtout lancés ainsi sans tact à la face de tous les fidèles, avaient dû produire sur sa femme, jeta sur elle à la dérobée un regard plein d'inquiète sollicitude. Il vit alors que dans sa résolution de ne pas prendre acte, de ne pas avoir été touché par la nouvelle qui venait de lui être notifiée, de ne pas seulement rester muette, mais d'avoir été sourde, comme nous l'affectons quand un ami fautif essaye de glisser dans la conversation une excuse, que ce serait avoir l'air d'admettre que de l'avoir écouté sans protester, ou quand on prononce devant nous le nom défendu d'un ingrat. Madame Verdurin, pour que son silence n'eût pas l'air d'un consentement, mais du silence ignorant des choses inanimées, avait soudain dépouillé son visage de toute vie, de toute motilité. Son front bombé n'était plus qu'une belle étude de ronde bosse, où le nom de ces Latrémoilles, chez qui était toujours fourré Swann, n'avait pu pénétrer. Son nez légèrement foncé laissait voir une échancrure qui semblait calquée sur la vie. On eût dit que sa bouche entrouverte allait parler. Ce n'était plus qu'une cire perdue, qu'un masque de plâtre, qu'une maquette pour un monument, qu'un buste pour le palais de l'industrie, devant lequel le public s'arrêterait certainement pour admirer comment le sculpteur, en exprimant l'imprescriptible dignité des Verdurins opposée à celle des Latrémoilles et des Laumes, qu'ils valent certes ainsi que tous les ennuyeux de la terre, était arrivé à donner une majesté presque papale à la blancheur et à la rigidité de la pierre. Mais le marbre finit par s'animer et fit entendre qu'il fallait ne pas être dégoûté pour aller chez ces gens-là, car la femme était toujours ivre et le mari si ignorant qu'il disait « Collidor » pour « Corridor ». On me paierait bien cher que je ne laisserais pas entrer ça chez moi, conclut Madame Verdurin en regardant Swann d'un air impérieux. Sans doute elle n'espérait pas qu'il se soumettrait jusqu'à imiter la sainte simplicité de la tante du pianiste qui venait de s'écrier « Voyez-vous ça ? Ce qui m'étonne, c'est qu'il trouve encore des personnes qui consentent à leur causer. Il me semble que j'aurais peur. Un mauvais coup est si vite reçu. Comment y a-t-il encore du peuple assez brut pour leur courir après ?» Que ne répondait-il du moins comme Forcheville ? « Dame, c'est une duchesse, il y a des gens que ça impressionne encore. » Ce qui aurait permis au moins à Madame Verdurin de répliquer « grand bien leur face ». Au lieu de cela, Swann se contenta de rire, d'un air qui signifiait qu'il ne pouvait même pas prendre au sérieux une pareille extravagance. Monsieur Verdurin, continuant à jeter sur sa femme des regards furtifs, voyait avec tristesse et comprenait trop bien qu'elle éprouvait la colère d'un grand inquisiteur qui ne parvient pas à extirper l'hérésie, et pour tâcher d'amener Swann à une rétractation, comme le courage de ses opinions paraît toujours un calcul et une lâcheté aux yeux de ceux à l'encontre de qui il s'exerce, M. Verdurin l'interpella. « Dites donc franchement votre pensée, nous n'irons pas le leur répéter. » À quoi Swann répondit, « Mais ce n'est pas du tout par peur de la duchesse, si c'est des Latrémoilles que vous parlez. Je vous assure que tout le monde aime aller chez elle. Je ne vous dis pas qu'elle soit profonde. » Il prononça profonde comme si ça avait été un mot ridicule, car son langage gardait la trace d'habitude d'esprit qu'une certaine rénovation, marquée par l'amour de la musique, lui avait momentanément fait perdre. Il exprimait parfois ses opinions avec chaleur. Mais très sincèrement, elle est intelligente et son mari est un véritable lettré. Ce sont des gens charmants. Si bien que Madame Verdurin, sentant que par ce seul infidèle elle serait empêchée de réaliser l'unité morale du petit noyau, ne put pas s'empêcher dans sa rage contre cet obstiné qui ne voyait pas combien ses paroles la faisaient souffrir, de lui crier du fond du cœur « Trouvez-le si vous voulez, mais du moins ne nous le dites pas. » Tout dépend de ce que vous appelez intelligence, dit Forcheville qui voulait briller à son tour. Voyons, Swann, qu'entendez-vous par intelligence ? Voilà, s'écria Odette. Voilà les grandes choses dont je lui demande de me parler, mais il ne veut jamais. Mais si, protesta Swann. Cette blague, dit Odette. Blague à tabac ? Demanda le docteur. Pour vous, reprit Forcheville, l'intelligence est-ce le bagout du monde, les personnes qui savent s'insinuer ? Finissez votre entremets, qu'on puisse enlever votre assiette, dit Madame Verdurin d'un ton aigre en s'adressant à sa niette, lequel, absorbé dans des réflexions, avait cessé de manger. Et peut-être un peu honteuse du ton qu'elle avait pris. « Cela ne fait rien, vous avez votre temps. Mais si je vous le dis, c'est pour les autres, parce que cela empêche de servir. » « Il y a, dit Brichot en martelant les syllabes, une définition bien curieuse de l'intelligence dans ce doux anarchiste de Fénelon. « Écoutez, dit à Forcheville et au docteur Madame Verdurin, il va nous dire la définition de l'intelligence par Fénelon. C'est intéressant. » On n'a pas toujours l'occasion d'apprendre cela. » Mais Brichot attendait que Swann eût donné la sienne. Celui-ci ne répondit pas, et en se dérobant fit manquer la brillante joute que Madame Verdurin se réjouissait d'offrir à Forcheville. « Naturellement, c'est comme avec moi, » dit Odette d'un ton boudeur. « Je ne suis pas fâché de voir que je ne suis pas la seule qu'il ne trouve pas à la hauteur. » C'est de la trémoille que Madame Verdurin nous a montré comme si peu recommandable, demanda Brichot en articulant avec force. Descend-il de ce que cette bonne snob de Madame de Sévigné avouait être heureuse de connaître parce que cela faisait bien pour ses paysans? Il est vrai que la marquise avait une autre raison et qui pour elle devait primer celle-là, car gens de lettres dans l'âme, elle faisait passer la copie avant tout. Or, dans le journal qu'elle envoyait régulièrement à sa fille, c'est Madame de la Trémoille, bien documentée par ses grandes alliances, qui faisait la politique étrangère. Mais non, je ne crois pas que ce soit la même famille, dit à tout hasard Madame Verdurin. Sa niette, qui depuis qu'il avait rendu précipitamment au maître d'hôtel son assiette encore pleine, s'était replongée dans un silence méditatif, en sortit enfin pour raconter en riant l'histoire d'un dîner qu'il avait fait avec le duc de la Trémoille, et d'où il résultait que celui-ci ne savait pas que George Sand était le pseudonyme d'une femme. Swann, qui avait de la sympathie pour sa niette, crut devoir lui donner sur la culture du duc des détails montrant qu'une telle ignorance de la part de celui-ci était matériellement impossible. Mais tout d'un coup il s'arrêta. Il venait de comprendre que sa niette n'avait pas besoin de ses preuves, et savait que l'histoire était fausse pour la raison qu'il venait de l'inventer il y avait un moment. Cet excellent homme souffrait d'être trouvé si ennuyeux par les Verdurin. Ayant conscience d'avoir été plus terne encore à ce dîner que d'habitude, il n'avait pas voulu le laisser finir sans avoir réussi à amuser. Il capitula si vite, eut l'air si malheureux de voir manquer l'effet sur lequel il avait compté, et répondit d'un ton si lâche à Swann, pour que celui-ci ne s'acharnât pas à une réfutation désormais inutile. « C'est bon, c'est bon. En tout cas, même si je me trompe, ce n'est pas un crime, je pense. » Que Swann aurait voulu pouvoir dire que l'histoire était vraie et délicieuse. Le docteur, qui les avait écoutés, eut l'idée que c'était le cas de dire « c'est non et vero », mais il n'était pas assez sûr des mots et craignit de s'embrouiller. Après le dîner, Forcheville alla de lui-même vers le docteur. « Elle n'a pas dû être mal, Madame Verdurin. Et puis c'est une femme avec qui on peut causer. Pour moi, tout est là. Évidemment, elle commence à avoir un peu de bouteille. Mais Madame de Crécy, voilà une petite femme qui a l'air intelligente. À sa perlipopette, on voit tout de suite qu'elle a l'œil américain, celle-là. Nous parlons de Madame de Crécy, dit-il à Monsieur Verdurin qui s'approchait la pipe à la bouche. Je me figure que comme corps de femme... J'aimerais mieux la voir dans mon lit que le tonnerre, dit précipitamment Cottard qui, depuis quelques instants, attendait en vain que Forcheville reprît haleine pour placer cette vieille plaisanterie, dont il craignait que ne revînt pas la propos si la conversation changeait de cours et qu'il débita avec cet excès de spontanéité et d'assurance qui cherche à masquer la froideur et l'émoi inséparables d'une récitation. Forcheville la connaissait, il la comprit et s'en amusa. Quant à M. Verdurin, il ne marchanda pas sa gaieté, car il avait trouvé depuis peu pour la signifier un symbole autre que celui dont usait sa femme, mais aussi simple et aussi clair. À peine avait-il commencé à faire le mouvement de tête et d'épaule de quelqu'un qui s'esclaffe, qu'aussitôt il se mettait à tousser comme si, en riant trop fort, il avait avalé la fumée de sa pipe. Et la gardant toujours au coin de sa bouche, il prolongeait indéfiniment le simulacre de suffocation et d'hilarité. Ainsi, lui et Madame Verdurin, qui, en face, écoutant le peintre qui lui racontait une histoire, fermaient les yeux avant de précipiter son visage dans ses mains, avaient l'air de deux masques de théâtre qui figuraient différemment la gaieté. Monsieur Verdurin avait d'ailleurs fait sagement en ne retirant pas sa pipe de sa bouche, car Cottard, qui avait besoin de s'éloigner un instant, fit à mi-voix une plaisanterie qu'il avait apprise depuis peu et qu'il renouvelait chaque fois qu'il avait à aller au même endroit. « Il faut que j'aille entretenir un instant le duc d'Aumale. » De sorte que la quinte de Monsieur Verdurin recommença. « Voyons, enlève donc ta pipe de ta bouche. Tu vois bien que tu vas t'étouffer à te retenir de rire comme ça, » lui dit Madame Verdurin qui venait offrir des liqueurs. « Quel homme charmant que votre mari. Il a de l'esprit comme quatre, » déclara Forcheville à Madame Cottard. « Merci, madame. Un vieux troupier comme moi, ça ne refuse jamais la goutte. » Monsieur de Forcheville trouve Odette charmante, dit Monsieur Verdurin à sa femme. « Mais justement, elle voudrait déjeuner une fois avec vous. Nous allons combiner ça, mais il ne faut pas que Swann le sache. Vous savez, il met un peu de froid. Ça ne vous empêchera pas de venir dîner, naturellement. Nous espérons vous avoir très souvent. Avec la belle saison qui vient, nous allons souvent dîner en plein air. Cela ne vous ennuie pas, les petits dîners au bois ?»« Bien, bien, ce sera très gentil. » « Est-ce que vous n'allez pas travailler de votre métier, vous » cria-t-elle au petit pianiste, afin de faire montre devant un nouveau de l'importance de Forcheville, à la fois de son esprit et de son pouvoir tyrannique sur les fidèles. Monsieur de Forcheville était en train de me dire du mal de toi, dit Madame Cottard à son mari quand il rentra au salon. Et lui, poursuivant l'idée de la noblesse de Forcheville, qui l'occupait depuis le commencement du dîner, lui dit « Je soigne en ce moment une baronne, la baronne Putbu. Les Putbu étaient aux croisades, n'est-ce pas? Ils ont en Poméranie un lac qui est grand comme 10 fois la place de la Concorde. Je la soigne pour de l'arthrite sèche. C'est une femme charmante. Elle connaît du reste Madame Verdurin, je crois. » Ce qui permit à Forcheville, quand il se retrouva un moment après seul avec Madame Cottard, de compléter le jugement favorable qu'il avait porté sur son mari. « Et puis il est intéressant, on voit qu'il connaît du monde. Dame, ça c'est tant de choses, les médecins. » « Je vais jouer la phrase de la sonate pour Monsieur Swann, » dit le pianiste. « À bigre, ce n'est pas au moins le serpent à sonate ?» demanda M. de Forcheville pour faire de l'effet. Mais le docteur Cottard, qui n'avait jamais entendu ce calembour, ne le comprit pas et crut à une erreur de M. de Forcheville. Il s'approcha vivement pour la rectifier. « Mais non, ce n'est pas serpent à sonate qu'on dit, c'est serpent à sonnette, dit-il d'un ton zélé, impatient et triomphal. Forcheville lui expliqua le calembour. Le docteur rougit. « Avouez qu'il est drôle, docteur. »« Oh, je le connais depuis si longtemps, » répondit Cottard. Mais ils se turent. Sous l'agitation des trémolos de violon qui la protégeaient de leur tenue frémissante à 2 octaves de là, et comme dans un pays de montagne, derrière l'immobilité apparente et vertigineuse d'une cascade, on aperçoit 200 pieds plus bas la forme minuscule d'une promeneuse, la petite phrase venait d'apparaître, lointaine, gracieuse, protégée par le long déferlement du rideau transparent, incessant et sonore. Et Swann, en son cœur, s'adressa à elle comme à une confidente de son amour, comme à une amie de dette qui devrait bien lui dire de ne pas faire attention à ce Forcheville. « Ah, vous arrivez tard !» dit Madame Verdurin à un fidèle qu'elle n'avait invité qu'en cure-dent. « Nous avons eu un Brichot incomparable, d'une éloquence. » Mais il est parti. « N'est-ce pas, Monsieur Swann ? Je crois que c'est la première fois que vous vous rencontriez avec lui » dit-elle pour lui faire remarquer que c'était à elle qu'il devait de le connaître. « N'est-ce pas ? Il a été délicieux, notre Brichot. » Swann s'inclina poliment. « Non, il ne vous a pas intéressé ?» lui demanda sèchement Madame Verdurin. « Mais si, madame, beaucoup, j'ai été ravi. Il est peut-être un peu péremptoire et un peu jovial pour mon goût. Je lui voudrais parfois un peu d'hésitation et de douceur. Mais on sent qu'il sait tant de choses et il a l'air d'un bien brave homme. » Tout le monde se retira fort tard. Les premiers mots de Cottard à sa femme furent « J'ai rarement vu Madame Verdurin aussi en verve que ce soir. Qu'est-ce que c'est exactement que cette Madame Verdurin ? Un demi-castor ?» dit Forcheville au peintre à qui il proposa de revenir avec lui. Odette le vit s'éloigner avec regret. Elle n'osa pas ne pas revenir avec Swann. Mais fut de mauvaise humeur en voiture, et quand il lui demanda s'il devait entrer chez elle, elle lui dit, bien entendu, en haussant les épaules avec impatience. Quand tous les invités furent partis, Madame Verdurin dit à son mari, « As-tu remarqué comme Swann a ri d'un rire niais quand nous avons parlé de Madame la Trémoille ?» Elle avait remarqué que devant ce nom, Swann et Forcheville avaient plusieurs fois supprimé la particule, ne doutant pas que ce fût pour montrer qu'ils n'étaient pas intimidés par les titres, elle souhaitait d'imiter leur fierté, mais n'avait pas bien saisi par quelle forme grammaticale elle se traduisait. Aussi, sa vicieuse façon de parler l'emportant sur son intransigeance républicaine, elle disait encore les de la Trémoille, ou plutôt par une abréviation en usage dans les paroles des chansons de café-concert et les légendes des caricaturistes, et qui dissimulait le « de », les de la Trémoille. Mais elle se rattrapait en disant « Madame la Trémoille, la duchesse, comme dit Swann », ajouta-t-elle ironiquement avec un sourire qui prouvait qu'elle ne faisait que citer et ne prenait pas à son compte une dénomination aussi naïve et ridicule. Je te dirai que je l'ai trouvée extrêmement bête. Et M. Verdurin lui répondit, il n'est pas franc, c'est un M. Côteleux, toujours entre le ziste et le zeste. Il veut toujours ménager la chèvre et le chou. Quelle différence avec Forcheville ? Voilà au moins un homme qui vous dit carrément sa façon de penser. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas comme l'autre, qui n'est jamais ni figue ni raisin. Du reste, Odette a l'air de préférer joliment le Forcheville, et je lui donne raison. Et puis enfin, puisque Swann veut nous la faire à l'homme du monde, au champion des duchesses, au moins l'autre a son titre, il est toujours comte de Forcheville, ajouta-t-il d'un air délicat, comme si au courant de l'histoire de ce comté, il en soupesait minutieusement la valeur particulière. « Je te dirai, » dit Madame Verdurin, « qu'il a cru devoir lancer contre Brichot quelques insinuations venimeuses et assez ridicules. Naturellement, comme il a vu que Brichot était aimé dans la maison, c'était une manière de nous atteindre, de bêcher notre dîner. On sent le bon petit camarade qui vous débinera en sortant. « Mais je te l'ai dit, répondit Monsieur Verdurin, c'est le raté, le petit individu envieux de tout ce qui est un peu grand. » En réalité, il n'y avait pas un fidèle qui ne fût plus malveillant que Swann, mais tous ils avaient la précaution d'assaisonner leur médisance de plaisanteries connues, d'une petite pointe d'émotion et de cordialité, tandis que la moindre réserve que se permettait Swann, dépouillé des formules de convention telles que « ce n'est pas du mal » que nous disons, et auxquelles il dédaignait de s'abaisser, paraissait une perfidie. Il y a des auteurs originaux dont la moindre hardiesse révolte parce qu'ils n'ont pas d'abord flatté les goûts du public et ne lui ont pas servi les lieux communs auxquels il est habitué. C'est de la même manière que Swann indignait M. Verdurin. Pour Swann, comme pour eux, c'était la nouveauté de son langage qui faisait croire à la noirceur de ses intentions. Swann ignorait encore la disgrâce dont il était menacé chez les Verdurin et continuait à voir le ridicule en beau au travers de son amour. Il n'avait de rendez-vous avec Odette, au moins le plus souvent, que le soir. Mais le jour, ayant peur de la fatiguer de lui en allant chez elle, il aurait aimé du moins ne pas cesser d'occuper sa pensée, et à tout moment il cherchait à trouver une occasion d'y intervenir, mais d'une façon agréable pour elle. Si à la devanture d'un fleuriste ou d'un joaillier, la vue d'un arbuste ou d'un bijou le charmait, aussitôt il pensait à les envoyer à Odette, imaginant le plaisir qu'il lui avait procuré, ressenti par elle, venant accroître la tendresse qu'elle avait pour lui. Et les faisait porter immédiatement rue La Pérouse, pour ne pas retarder l'instant où, comme elle recevrait quelque chose de lui, il se sentirait en quelque sorte près d'elle. Il voulait surtout qu'elle l'ait reçue avant de sortir pour que la reconnaissance qu'elle éprouverait lui valût un accueil plus tendre quand elle le verrait chez les Verdurin. Ou même, qui sait, si le fournisseur faisait assez diligence, peut-être une lettre qu'elle lui enverrait avant le dîner, ou sa venue à elle en personne chez lui, en une visite supplémentaire, pour le remercier. Comme jadis, quand il expérimentait sur la nature d'Odette les réactions du dépit, il cherchait par celle de la gratitude à tirer d'elle des parcelles intimes de sentiments qu'elle ne lui avait pas révélées encore. Souvent elle avait des embarras d'argent, et pressé par une dette, le priait de lui venir en aide. Il en était heureux, comme de tout ce qui pouvait donner à Odette une grande idée de l'amour qu'il avait pour elle, ou simplement une grande idée de son influence, de l'utilité dont il pouvait lui être. Sans doute si on lui avait dit au début « c'est ta situation qui lui plaît, et maintenant c'est pour ta fortune qu'elle t'aime », il ne l'aurait pas cru. Et n'aurait pas été d'ailleurs très mécontent qu'on se la figurât tenant à lui, qu'on les sentît unis l'un à l'autre, par quelque chose d'aussi fort que le snobisme ou l'argent. Mais même s'il avait pensé que c'était vrai, peut-être n'eût-il pas souffert de découvrir à l'amour d'Odette pour lui cet état plus durable que l'agrément ou les qualités qu'elle pouvait lui trouver. L'intérêt qui empêcherait de venir le jour où elle aurait pu être tentée de cesser de le voir. Pour l'instant, en la comblant de présents, en lui rendant des services, il pouvait se reposer sur des avantages extérieurs à sa personne, à son intelligence, du soin épuisant de lui plaire par lui-même. Et cette volupté d'être amoureux, de ne vivre que d'amour, de la réalité de laquelle il doutait parfois, le prix dont, en somme, il l'a payé, en dilettante, de sensations immédiates, lui en augmentait la valeur, comme on voit des gens incertains si le spectacle de la mer et le bruit de ses vagues sont délicieux, s'en convaincre ainsi que de la rare qualité de leur goût désintéressé, en louant 100 francs par jour la chambre d'hôtel qui leur permet de les goûter. Un jour que des réflexions de ce genre le ramenaient encore au souvenir du temps où on lui avait parlé d'être comme d'une femme entretenue, et où une fois de plus il s'amusait à opposer cette personnification étrange, la femme entretenue, chatoyant amalgame d'éléments inconnus et diaboliques, sertie comme une apparition de Gustave Moreau, de fleurs vénéneuses entrelacées à des joyaux précieux, et cette Odette, sur le visage de qui il avait vu passer les mêmes sentiments de pitié pour un malheureux, de révolte contre une injustice, de gratitude pour un bienfait qu'il avait vu éprouver autrefois par sa propre mère, par ses amis. Cette Odette, dont les propos avaient si souvent trait aux choses qu'il connaissait le mieux lui-même, à ses collections, à sa chambre, à son vieux domestique, au banquier chez qui il avait ses titres. Il se trouva que cette dernière image du banquier lui rappela qu'il aurait à y prendre de l'argent. En effet, si ce mois-ci il venait moins largement à l'aide d'Odette dans ses difficultés matérielles qu'il n'avait fait le mois dernier où il lui avait donné 5 000 francs, et s'il ne lui offrait pas une rivière de diamants qu'elle désirait, il ne renouvellerait pas en elle cette admiration qu'elle avait pour sa générosité, cette reconnaissance qui le rendait si heureux, et même il risquerait de lui faire croire que son amour pour elle, comme elle en verrait les manifestations devenir moins grandes, avait diminué. Alors tout d'un coup, il se demanda si cela, ce n'était pas précisément l'entretenir, comme si en effet cette notion d'entretenir pouvait être extraite d'éléments non pas mystérieux ni pervers, mais appartenant au fond quotidien et privé de sa vie, tel que ce billet de 1 000 francs, domestique et familier, déchiré et recollé que son valet de chambre, après lui avoir payé les comptes du mois et le terme, avait serré dans le tiroir du vieux bureau, où Swann l'avait repris, pour l'envoyer avec 4 autres à Odette. Et si on ne pouvait pas appliquer à Odette depuis qu'il la connaissait, car il ne soupçonna pas un instant qu'elle eût jamais pu recevoir d'argent de personne avant lui, ce mot qu'il avait cru si inconciliable avec elle, de femme entretenue. Il ne put approfondir cette idée, car un accès d'une paresse d'esprit qui était chez lui congénitale, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence, aussi brusquement que plus tard, quand on eut installé partout l'éclairage électrique, on put couper l'électricité dans une maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité, il retira ses lunettes, en essuya les verres, se passa la main sur les yeux, et ne revit la lumière que quand il se retrouva en présence d'une idée toute différente, à savoir qu'il faudrait tâcher d'envoyer le mois prochain 6 ou 7 000 francs à Odette au lieu de 5, à cause de la surprise et de la joie que cela lui causerait.